Exploration, gagner en XP dans le JV.
Depuis quelques semaines, je remarque qu'à chaque émission, notre chère équipe du mercredi ne peut s'empêcher de citer le nom d'une entreprise qui a un pied dans le jeu vidéo depuis un sacré bout de temps. Alors non, je ne pense pas à Nintendo, mais plutôt à une compagnie qui, pour ainsi dire, a la main mise sur un bon nombre de propriétés intellectuelles. Et oui, on parle bien de Disney. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter Walt Disney Company ? Tout le monde connaît la firme aux grandes oreilles, créée à quelques mois près, il y a 100 ans, par Roy Oliver et Walter Elias Disney. Pour vous dire à quel point ils ont marqué l'histoire du monde culturel, la famille Disney possède une page Wikipédia pour rendre hommage aux autres membres qui n'auraient pas eu autant d'impact que les cofondateurs de la société ou leurs descendants. Imaginez, avoir votre arbre généalogique sur l'encyclopédie la plus fournie de la planète, juste parce que deux membres de votre fratrie ont bâti un empire culturel et médiatique. Mais bref, comme je l'ai dit, je n'ai pas spécialement besoin de m'attarder sur le cas de Disney dans sa totalité. Alors, concentrons-nous sur le sujet de mes chroniques, le jeu vidéo. Disney et le JV, c'est une histoire qui commence à dater. L'un des tout premiers gros titres à être commercialisé par la compagnie n'est autre que Mickey Mouse sur la Game & Watch de Nintendo en 1981. Pour rappel, les Game & Watch, c'était des petites consoles électroniques qui n'embarquaient qu'un jeu par machine. Elles fonctionnaient un peu comme des calculatrices, sauf qu'ici, on oublie les lignes de chiffres pour préférer des images qui s'allumaient au fur et à mesure pour simuler du mouvement. Ainsi, c'est grâce à ce partenariat avec Nintendo que Disney va débuter dans le paysage vidéoludique. En parallèle, la marque s'associera avec d'autres studios de développement et éditeurs pour concevoir des jeux issus du film Tron de 1982. Pour rappel, Tron, c'est un long métrage qui utilise le jeu vidéo et l'informatique pour créer un monde de science-fiction riche. Les programmes informatiques prennent forme humaine au sein d'un univers fait de néons et de polygones. Déjà à l'époque, l'œuvre nous mettait en garde sur la place des intelligences artificielles ainsi que le monopole des entreprises de la tech. Aussi, Disney va se servir de Tron et de Mickey pour s'implanter dans le JV. Cela dit, c'est réellement en 1989 que la multinationale marquera l'histoire du média en s'associant avec les Japonais de Capcom, une compagnie que l'on connaît désormais pour les franchises Street Fighter, Resident Evil ou encore Monster Hunter, mais qui durant cette période profitait d'une bonne presse grâce au tout premier Mega Man de 1987. Ainsi, c'est sous la direction de Tokuro Fujiwara, créateur du terriblement difficile Ghosts and Goblins, que DuckTales sortira sur la première console de salon de Nintendo, la NES. Ah, et si le nom ne vous dit rien, c'est pourtant l'adaptation d'une série d'animation désormais culte.
Il vaut des milliards en or, en dollars. Picsou, wouhou, en suivant Pipi, Riri et Loulou, wouhou, nous entrerons dans la bande à Picsou.
J'en avais oublié à quel point c'était kitsch. Bref, dès lors, les œuvres vidéoludiques estampillées Disney seront énormément variées, puisque la firme prêtera ses licences à divers studios et tout dépendra de qui se trouve derrière les différents projets. Parmi les titres les plus mémorables, on retrouve surtout des jeux de plateforme, un genre qui faisait un carton absolu dans les années 90, notamment grâce à un certain plombier italien moustachu. De cette période, on retient surtout Castle of Illusions, un jeu avec Mickey développé par Sega, qui sont pour rappel les papas de Sonic. De même, on se souviens des différentes productions issues d'Aladdin par divers créatifs selon les supports. Parce que oui, ça se faisait pas mal à l'époque. Ainsi, on pouvait avoir un jeu Aladdin chapeauté par Capcom, tandis qu'un autre l'était par les studios de Virgin Interactive. Enfin, l'adaptation du Roi Lion, également réalisée par Virgin Interactive, est aussi reconnue pour la qualité de ses passages ludiques. Cependant, si ce n'est deux ou trois œuvres sympathiques de temps en temps, les années 2000 et 2010 se font plus calmes pour Disney en termes de jeux vidéo. Ils cessent de s'associer à de gros studios comme Capcom et préfèrent de nouvelles têtes peu connues à cette époque. Ainsi, les Canadiens de Binox ou les Américains de Vicarious Visions vont travailler sur des adaptations de longs métrages de la film. Si ces noms ne vous disent rien, c'est parce qu'ils sont bien souvent souvent invisibilisé par celui qui deviendra plus tard leur éditeur, le géant Activision, que l'on retient surtout pour Call of Duty. Pourtant, ce sont des gens talentueux, puisque ces derniers ont respectivement œuvré sur des licences comme Spider-Man, Spyro ou encore Crash Bandicoot. Dans un autre style, Disney s'associe à intervalles réguliers avec les bordelais d'Asobo Studio pour réaliser certaines adaptations de films Pixar. Et oui, c'est bien le même Asobo que l'on retrouve actuellement derrière le très acclamé Microsoft Flight Simulator et les maintes fois récompensés pour leur qualité narrative et visuelle, A Plague Tale. Vous l'aurez compris, durant cette période, les jeux Disney permettaient surtout à certains studios de se faire la main, ou en tout cas de faire vivre leurs employés en signant des contrats autour de propriétés intellectuelles qui étaient assurées d'obtenir un petit succès. On notera quand même qu'en 2007, 2008 et 2009, Disney s'était donné pour objectif de créer une saga réservée uniquement aux médias vidéoludiques. Dénommé Spectrobes, il s'agissait d'une production reprenant le sel de la franchise Pokémon, mais en ajoutant de la science-fiction et de l'action. Ce qui était globalement une très bonne idée. Malgré tout, la licence ne comptera que 3 pauvres titres et ne frappera pas. Pas plus les esprits que cela. D'ailleurs, anecdote personnelle, quand j'étais plus jeune et que je regardais encore la télévision, une des chaînes appartenant à Disney proposait un petit format qui parlait de JV. Cependant, en écrivant ma chronique, je me rappelais que dans les faits, il ne traitait que de jeux en lien avec Disney, et Spectrobes m'avait marqué car il sortait de l'ordinaire. Mais en réalité, c'était juste une pub déguisée puisque le titre était édité par la multinationale. Bref, depuis, je fais une crise existentielle à me demander si toute ma vie n'est pas contrôlés par une souris aux grandes oreilles. Désormais, la société a bien changé ses méthodes de développement. Les adaptations en jeux vidéo des films ne se font plus, et Mickey et ses potes se sont tournés vers les smartphones plutôt que les consoles et offrent bien souvent des productions reprenant des principes qui ont bien fonctionné auparavant. Par exemple, le récent Disney Dreamlight Valley se saisit des bases de la franchise Animal Crossing de Nintendo. Le titre nous propose de bâtir notre propre village, sauf qu'ici, on retire les animaux mignons pour mettre des personnages issus du catalogue de l'entreprise. Il existe aussi Disney Speedstorm, un jeu de course très inspiré de Mario Kart, encore une fois une œuvre marquée du sceau de Nintendo. Bon, cependant, résumer l'impact de Disney sur le média à ses adaptations, cela serait mentir. En effet, si Spectrobes était bel et bien un échec de la part de Disney pour créer une franchise réservée au médium, elle possédait pourtant déjà une licence qui était limitée aux manettes des joueurs et joueuses. Une véritable anomalie dans le paysage de la firme, la saga Kingdom Hearts. Ah, ça sent bien la techno des années 2000. Hein. Alors, Kingdom Hearts, comment résumer en 3 mots ? Un beau bordel. Sorti en 2001 sur PlayStation 2, on incarne un jeune garçon au design bien japonais. Notre protagoniste va, à la suite de la destruction de son île par des forces maléfiques, atterrir dans une ville où il fera la rencontre de différents personnages, tels que Merlin l'Enchanteur du film éponyme, bon là encore ça va, mais il tombera aussi sur Squall, le héros de Final Fantasy VIII. Peu de temps après, notre jeune homme aux cheveux hérissés part à l'aventure dans différents mondes tirés de productions de Disney, comme Tarzan ou encore Aladdin, pour retrouver ses amis. Et tout ça accompagné par Donald et Dingo, qui sont ici respectivement un mage et un chevalier. Vous l'aurez compris, hors de son contexte, tout paraît très étrange. Pour revenir aux bases, Kingdom Hearts, c'est une licence née de l'imaginaire de Tetsuya Nomura, un employé de Squaresoft qui a eu la chance de diriger son propre jeu après des années de bons et loyaux services. Nomura était là lors du développement de Chrono Trigger, et c'est aussi à lui que l'on doit les designs de personnages de Final Fantasy VIII et surtout du cultissime Final Fantasy VII. Ceci dit, malgré sa participation à de grandes œuvres vidéoludiques, il y a un titre qui va le marquer, et ce jeu, c'est Super Mario 64. Mario 64, sorti en 1996, c'était l'avenir du JV. Et Nomura, le jour où il a eu le titre de Nintendo entre les mains, il a su qu'il voulait faire une œuvre qui rivaliserait avec ce mastodonte. Cependant, en partageant son idée avec ses collègues, notamment Hironobu Sakaguchi et Shinji Hashimoto, deux figures des Final Fantasy, il avait bien compris qu'il ne pourrait pas réussir sans une mascotte avec la même aura que Mario. Et ce n'est pas les créatures de Final Fantasy qui auraient pu suffire. Ah ça, non. Il avait besoin d'une tête d'affiche. Il avait besoin de Mickey. Alors, l'histoire commence ainsi, mais ce n'est pas gagné. Square et Disney n'ont jamais œuvré ensemble auparavant, et à raison, puisque l'entreprise japonaise s'était spécialisée dans un genre qui n'intéressait pas du tout la firme américaine, les jeux de rôle. Heureusement, il se trouve qu'à l'époque, Square et la branche japonaise de Disney travaillent dans le même bâtiment, et c'est là où la magie va opérer. Shinji Hashimoto va croiser un des exécutifs de Disney et va lui exposer l'idée du jeu. En outre, il ne fait pas ça dans un café du bâtiment, hein. Non, non, quand je dis il le croise, il tombe sur lui alors qu'il prenait l'ascenseur. Ainsi, Hashimoto réussit l'exploit de présenter un projet aux objectifs démesurés en pas moins d'une trentaine de secondes. S'en suivent des réunions et finalement, Kingdom Hearts va voir le jour. Alors, si au début Disney souhaitait faire du jeu une pub pour leur parc animalier, Nomura n'en démordra pas et va leur vendre l'idée d'une œuvre aussi ambitieuse qu'un Final Fantasy, mais avec les univers de Disney. Kingdom Hearts a beau être une franchise appartenant à Disney, c'est définitivement une saga qui transpire le Japon. Je veux dire, le héros s'appelle Sora, ce qui signifie ciel en japonais, tandis que son rival se prénomme Riku, soit terre, dans la langue d'Hayao Miyazaki. Ainsi, de la même manière que plein de créations artistiques issues de l'archipel nippon, on est loin d'une écriture à l'occidentale. Tout n'est pas particulièrement subtil, et dans un sens, c'est normal, hein, c'est une autre culture. Si beaucoup décrivent Kingdom Hearts comme la rencontre de Final Fantasy et Disney, la réalité est un peu différente. Certes, il est possible de croiser différents personnages de Final Fantasy dans le jeu et les voir interagir avec des personnages Disney, mais ces anciennes stars de Square sont là pour guider notre protagoniste. Ce sont, dans les faits, des mentors dans le long voyage initiatique de notre héros. Ainsi, au fil des itérations, ils s'effacent peu à peu pour laisser leur place à de nouveaux personnages, à la différence de ceux de Disney qui reviennent dans les opus suivants. L'intérêt d'avoir des figures issues de l'imaginaire de l'entreprise américaine, c'est de pouvoir se servir des différents thèmes des films pour les adapter aux jeux vidéo. Dans une interview datant de 2004 pour le média américain IGN, Nomura racontait que malgré le fait que Disney soit très strict avec l'utilisation de leur image, ce dernier n'a jamais eu trop d'ennuis avec les responsables de la firme car ils savaient très bien ce qu'ils pouvaient ou ne pouvaient pas faire. Le japonais comprenait leurs attentes, il avait saisi la patte Disney. Un peu à la manière de Walt Disney, c'était désormais à son tour de transposer ses histoires dans un nouveau médium. Et dans l'idée, c'est ça Kingdom Hearts, une aventure haute en couleurs qui vient transmettre le message des différents univers de la compagnie dans le JV. C'est une licence riche, aussi bien dans sa mise en jeu que dans sa narration, et qui changera sûrement votre vision de Disney. Kingdom Hearts est vraiment à part dans le paysage vidéoludique, et c'est plutôt compliqué de parler de la saga sans dire de bêtises. Alors, je vous invite à vous y intéresser de votre côté. D'autant que la bande-son est absolument excellente, puisque la compositrice attitrée de la franchise n'est autre que Yoko Shimomura, à qui l'on devait déjà le thème de Guile de Street Fighter 2. Donc, musicalement, c'est du très bon, et en plus, elle a un petit don pour reprendre des classiques de Disney.
Le roseau est toujours plus vert dans le marais d'à côté.
Toi t'aimerais bien vivre sur terre, bonjour la calamité. Regarde bien le monde qui t'entoure dans l'océan parfumé. On fait carnaval tous les jours, mieux tu pourras pas trouver. Sous l'océan...
Et oui, dans les versions françaises, on retrouve tout le casting de base de chaque film, et c'est bien Donald Renew, le doubleur officiel de certaines moutures de Spider-Man ou encore de Titeuf, qui interprète Sora, le héros de l'œuvre, dans cette reprise de Sous l'océan de La Petite Sirène. Plus sérieusement, les compositions de Yoko Shimomura sont globalement excellentes, surtout dans les instants les plus dramatiques des jeux. Mais ce que les gens retiennent surtout, ce sont les génériques d'ouverture et de fermeture des itérations numérotées de la franchise. Ces génériques sont interprétés par Utada Hikaru, une véritable star américano-japonaise peu connue dans nos contrées, mais qui fait un carton au Japon. Pour finir cette chronique, je vous propose donc d'écouter Don't Think Twice, générique de fin de Kingdom Hearts 3, sorti en 2019.
They don't really mean, really. everything I ever dreamed, ever dreamed of, ever dreamed of. You must be kidding me, did you really think I could say no?
Take it to an even higher level.
I don't